pour dire les choses qu'on peut dire quand on n'est plus dans la fonction. Je pense que tu as craché le morceau, effectivement. La seule raison réelle de l'existence des masters, c'est qu'il n'y a que l'université qui délivre des diplômes. Parce que les formations de formateurs, elles existent. Elles ont existé à l'initiative des rectorats, à l'initiative du ministère. Moi, je peux dire, dans mon histoire de prof DN, le nombre de formations auxquelles on m'a envoyé, que j'ai suivi certaines avec plaisir, d'autres avec ennui. La grande chose, c'est que ces formations n'étaient diplômantes en rien. C'est-à-dire qu'elles faisaient partie de tous les objectifs que tu signales, qui sont l'enrichissement professionnel, les problèmes de posture, de parler avec des collègues, de parler avec des adultes, tout ça, c'était traité. Simplement, j'en tirais ce que je pouvais, ce que je pensais, ce que les collègues pouvaient. Et puis c'est tout. Ça faisait partie de l'autorégulation du système. Or, le point aujourd'hui qui fait question au niveau, pour des raisons internationales, c'est la diplomation. Mais quand tu parles aussi sur la question, il faut bien voir que pour la formation premier degré, par exemple, de maître formateur ou de conseiller pédagogique, il y avait une préparation et un examen formel. Cet examen n'est pas un diplôme. Il ne donne pas lieu à un changement de statut à l'intérieur du corps enseignant. Une des raisons qui fait aujourd'hui l'appétence que signalait Marie-France tout à l'heure des gens de terrain pour ces formations masterisées, c'est qu'ils ont l'espérance, mais ça n'est qu'une espérance pour le moment, qu'elles autoriseraient un changement de statut. Mais on sait très bien que syndicalement, par exemple, les conseillers pédagogiques actuels sont extraordinairement hostiles à la masterisation. Bon, c'est trop tard, ils ont perdu, puisque le mode de recrutement traditionnel des conseillers pédagogiques, par exemple, était basé sur de tout autre, même si c'était basé sur une expertise constituée à l'expérience et pas simplement au fait qu'on a acquis les choses à la force du poignet. On avait toujours des activités réflexives qui se passaient là. Mais elles n'étaient pas sanctionnées par un diplôme. Alors, ma question c'est, dans votre promo, tu prévois quel pourcentage d'échecs et sur quels critères ? Si on règle ce problème-là, si on sait qu'est-ce qui ferait que quelqu'un n'aurait pas le master premier, second degré ou n'aurait pas le master de formateur, là, je pense qu'on y verrait plus clair.
C'est une vraie question. Je ne sais pas comment y répondre. Je voudrais dire que par rapport à la première partie de ton intervention, je crois que l'une des difficultés qui est, bon, tu as mis le doigt sur la difficulté, l'une des difficultés qui existe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formations de formateurs, mais qui ne sont pas effectivement diplômantes. Et là, il y a un espoir, mais attention au risque de frustration de la part des formés, donc des formateurs d'enseignants. D'avoir, enfin, un espoir qui consiste à se dire, une fois que j'ai ce master, probablement que au moins je pourrai continuer à intervenir dans la formation d'enseignants, quel que soit le scénario retenu pour la suite, ou au mieux, pour certains d'entre eux, je pourrai essayer d'envisager d'autres activités dans des secteurs, pourquoi pas connexes, le temps de voir si ça fonctionne ou pas. Le risque de frustration interne, c'est que évidemment, on peut pas créer des catégories supplémentaires, ou en tout cas, au vu des statuts actuels, en lien avec ou du fait de ce nouveau diplôme. Donc là, c'est une difficulté. Maintenant, quant à la question des réussites ou échecs, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que a priori, les jurys, le jury est mixte, puisque évidemment une partie, alors le master et le parcours est géré par le département de sciences de l'éducation, mais avec une forte présence des enseignants chercheurs de l'IUFM, et il n'y a pas a priori de raison, sauf peut-être des raisons politiques et institutionnel, à se dire que chaque donc stagiaire, de toute façon, allant jusqu'au bout du parcours, aura le master, quel que soit... Je ne sais pas si je réponds à la question, mais il y aura peut-être... il n'y a pas a priori de raison permettant de se dire que l'on fonctionnera différemment que vis-à-vis d'un master ou que par rapport à un master... de formation de formateurs habituels. Le jury n'est pas un jury composé essentiellement de représentants de l'IUFM, mais il est d'abord piloté par le département de sciences de l'éducation. Alors après, il peut y avoir des considérations politiques et institutionnelles qui interviennent. Nous verrons ça en juin. Mais je pense que pour la qualité de la formation et du parcours, il faut absolument être dans les mêmes règles d'évaluation et de validation du parcours que pour les autres parcours. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Des critères non recevables à la fin du parcours. Des critères habituels que l'on utilise depuis une quinzaine d'années, s'agissant, alors moyennant des particularités liées au parcours. Mais par exemple, il y a les travaux qui sont rendus pour chaque unité d'enseignement. Il y a un ou deux travaux qui sont rendus et qui font l'objet d'une évaluation. Il y a déjà eu des travaux rendus et notés. Et puis, il y a bien sûr le mémoire. Qui est un mémoire de recherche, au sens mémoire de recherche, mais en lien avec sa pratique professionnelle ou un contexte professionnel, et qui fera l'objet d'une soutenance devant un jury, comme tout mémoire de master professionnel, jury mixte. Donc, a priori, il y a les mêmes critères que dans une autre formation. Ce n'est pas un parcours qui est un parcours aménagé avec des conditions de délivrance facilitées. En tout cas, l'équipe qui le pilote n'en a pas l'intention. Ça ne fait pas partie des...
Oui, juste Patrick Picard, nouvel arrivant au Centre Alain Savary et ex-travaillant au service de formation du rectorat de Dijon jusqu'à il y a 15 jours. Juste une petite anecdote. Pour avoir moi-même bénéficié, en tant qu'instit, un peu chevronné, d'un cursus de formation... dans le DESS qu'avaient monté Fayol, Dolly, Jarlegan, Tocsec et Guagou, rien que ça. Vous voyez la palette des disciplines qui étaient représentées. Et se poser à l'époque un peu le même genre de question, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un DESS, aujourd'hui on dirait master, qui ne sert à rien, c'est-à-dire qui n'amène pas, comme disait Anne-Marie, à un changement de corps, puisque même avec ce master, on est toujours instit, on est toujours prof d'école, on change pas de boulot, mais par contre, le cursus qui a eu lieu à ce moment-là, et là on revient sur échec ou réussite, a été individualisé, c'est-à-dire la capacité de dire en fonction de l'hétérogénéité, on y revient, des publics qui est là, très grande de par leur cursus, leur expérience, etc., jusqu'où on accompagne les gens dans un vrai projet de type validation des acquis de l'expérience, tout en gardant l'exigence universitaire, comme tu viens de le dire. Et je pense que voilà, c'est vrai que on voit bien là toutes les balises qui doivent travailler le chemin. Je finirai juste avec une petite expérience, parce que comme on vient de, vous êtes là venant des UFM ou venant des rectorats. On n'a pas encore beaucoup parlé des rectorats, et c'est vrai qu'il me semble que dans les projets à construire sur qu'est-ce qu'on demande à des formateurs, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, souvent on demande aux formateurs de mettre en place des actions de formation qui n'ont pas forcément été décidées par eux, souvent qui ont été décidées, je vais être grossier, par des IPR, qui ont décidé qu'il leur fallait un stage de ça. Et eux-mêmes, les formateurs qui arrivent comme formateurs sont souvent des gens qui ont été désignés, et on reprend le débat de Luc de tout à l'heure, par leurs inspecteurs comme étant des bons enseignants qui du coup vont faire passer les bonnes pratiques, et on retrouve le point de vue qui est, c'est-à-dire la difficulté pour ces formateurs-là à prendre leur père comme des égaux potentiels et ne pas voir seulement les bons profs et les mauvais profs, ce qu'il faut faire changer, etc. Et il me semble donc, pour finir, que un travail articulé entre les universités, leurs composantes IUFM et les services de formation du rectorat sont des choses qui sont absolument nécessaires pour réfléchir à ce qu'on demande à un formateur premier et second degré dans l'exercice ordinaire de leur travail.
Merci. Je voudrais juste en écho et dire que il me semble, pour avoir une expérience dans le champ de la formation de formateurs, tout secteur confondu, qu'un certain nombre de questions qu'on se pose ici sont exactement les mêmes que celles qui sont posées dans des masters de formation de formateurs relevant ou s'agissant de professionnels n'étant pas enseignants. C'est-à-dire qu'il y a la même question de l'hétérogénéité, parfois une hétérogénéité beaucoup plus importante, qui est prise en charge par les parcours et par les masters, et ça, il y a dans bon nombre de lieux déjà une habitude de prise en charge de ce public, avec des formes d'accompagnement, de validation d'acquis, bien sûr, à l'entrée en formation, et d'individualisation sous la forme d'un travail sur le projet, qui n'est pas tout à fait de même nature, ça je vous l'accorde, que le travail sur le projet s'agissant des formateurs d'enseignants, puisque précisément il y a des incertitudes énormes au sein de l'institution. Toujours est-il que je pense, indépendamment de l'expérience rouennaise, qu'il y a un enjeu à la fois à travailler cette individualisation des parcours, en lien notamment avec la possibilité de prévoir, comment dire, des horizons de mobilité externe. Parce que je crois que les formateurs, en tout cas certains de la promotion actuelle, sont demandeurs de perspectives dans le champ de la formation d'adultes, mais dans d'autres contextes professionnels. Et donc probablement qu'un des enjeux de la masterisation ou des masters de formation de formateurs d'enseignants, c'est aussi de proposer des offres qui ne soient pas trop enfermantes.